À 150 ans
bonjour.
D'histoire radiophonique.
Vous retrouverez tous ceux qui vous ont fait aimer France Inter.
Participez aussi à notre grand jeu.
Si le cœur vous en dit.
Écoutez la différence.
Ça n'a rien à voir.
Et inventez le slogan de France Inter de demain.
France Inter. Oh,
50 ans qu'on ouvre la voie.
Et pour bien vous rappeler que nous sommes à France Inter, je vous propose d'écouter tout de suite notre indicatif.
Rendez-vous dès maintenant
sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Il est 15h04 sur France Inter, c'est le moment de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Cher Daniel Mermet, ce matin du 21 novembre 2013, un jeune pompier a été tué à cause des barrages filtrants insurrectionnels qui sont organisés par la FDSEA ou la FNSEA, c'est pareil. Actuellement, les manifestations répétées sont devenues insurrectionnel, et il faut le dire, voilà, ce jeune pompier a été tué parce qu'il a percuté un barrage de tracteurs dans le Val d'Oise. Bravo les faux paysans, allez, salut et fraternité.
Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il vient de gonfler ce producteur de poulet de merde en batterie? Moi je préfère payer 8 euros le kilo pour du poulet bio plutôt que ces cochonneries à 4 euros le kilo. 3 fois plus de chair sur les zones à volaille que dans son produit de la grande distribution. De plus, il reçoit des subventions européennes avec nos impôts et les taxes qu'on paye. Il vend des os plus que des poulets avec des pesticides et des antibiotiques. Ça fait cher le kilo de cancer. Mais évidemment, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la santé humaine. C'est plutôt le pognon qu'il va se faire pour gaver son syndicat agricole. Merde. Il y en a marre de ces pollueurs de vie avec leurs poulets en cage et leurs ouvriers en usine. Bonsoir, bonjour, c'est Gérard du Maine-et-Loire. Salut.
Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie.
Les agriculteurs majoritairement votent à droite, mais demandent une politique communiste, c'est-à-dire plus de subventions. C'est marrant, non ? L'agriculture bretonne pleure contre la concurrence brésilienne, mais nourrit son cheptel de soja OGM brésilien, issu de la déforestation de l'Amazonie. C'est marrant ça aussi. En tant que consommateur, l'agriculture biologique coûte peut-être plus cher, mais est-elle réellement plus chère pour le contribuable? Qui paye le ramassage des algues vertes, la dépollution de l'eau, la disparition des abeilles dans nos campagnes et des poissons dans nos rivières? C'est des questions dont je me pose. Kenavo.
Ouais, salut Daniel, salut à tous les MG. Bon, j'appelle pour rassurer l'auditrice là qui pense que l'eau du robinet n'est pas potable en Bretagne. Donc c'est bien sûr absolument faux. Hein. Mais de toute façon, ici, on s'en fout, nous, on boit pas d'eau. Ici, quand on a soif, on boit du cidre. Et même le thé, on le fait avec du cidre. Donc qu'elle se rassure, elle peut venir en vacances tranquille, quoi. Et puis bon, moi, j'ai un bonnet vert. Voilà, c'était Ludo Morin, Saint-Brieuc, Kenavo.
Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission numéro 2 sur les bonnets rouges et je voulais dire à la dame de la CGT, qui n'est ni digo ni manipulée, qu'en tout cas, au niveau médiatique, je ne sais pas si elle a été manipulée, mais elle a bien été récupérée. Puis quand elle dit que l'important, c'est qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient tous bretons, elle me donne l'image du milliardaire breton qui défile la main dans la main avec le SDF breton. Et là, j'ai l'impression qu'elle me manipule un petit peu. Ou alors, c'est du régionalisme tendance indépendantisme. Et dans ce cas-là, elle se trompe encore. Elle devrait voter Marine Le Pen. Elle ferait honneur aux indépendantistes bretons qui, pendant l'occupation allemande, allaient négocier l'indépendance de la Bretagne à Berlin. Allez, courage les bretons. Et puis, gardez raison. C'était Éric de Lyon.
Monsieur Mermet, je tenais à vous dire que j'ai trouvé votre émission d'hier absolument scandaleuse. Le Qatar est un beau pays, c'est un des pays ouverts sur le monde, qui fait beaucoup pour le rapprochement entre l'Orient et l'Occident. C'est un pays qui s'est modernisé à une vitesse incroyable, qui est un pays qui est plein de talent, plein d'énergie. J'ai trouvé vraiment votre émission d'hier absolument honteuse et je tenais à vous le dire.
Bon chéri, c'est bon, je crois qu'on va te recevoir 10 000 euros. Tiens, tu mets TF1, c'est les infos.
Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie.
Ouais, on a compris. Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. Merci pour tous ces messages, chers AMG. C'est possible. On fabrique, on vend et on se paye. Ça vous dit quelque chose ? C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye. C'est pas sûr, faut avoir de la bouteille déjà pour avoir entendu ça en 1973 à Besançon. C'était la lutte des LIP. LIP, hurra ! C'est notre sujet du jour parce que 40 ans après, eh bien, la ville de Besançon, depuis plusieurs mois déjà, célèbre cette célèbre lutte qui a marqué une véritable cassure dans notre histoire française. Je n'ai pas dit sociale, je dis histoire tout court. Au printemps 73, les emplois sont menacés chez LIP, à Besançon, à Palante exactement, et en fouillant dans les documents d'un négociateur, les salariés découvrent une note écrite à la main, 480 à dégager. 480 à dégager. On disait pas encore plan social ou restructuration, c'était à dégager. Alors les salariés de LIP vont se lancer dans une des plus belles luttes de notre histoire, tout court, je le répète. Ils vont vendre directement eux-mêmes les montres qu'ils fabriquent, dont celle que je porte aujourd'hui au poignet. C'est une LIP, ouais, aujourd'hui pour cette émission. La lutte aura un retentissement et un soutien national et international. Ils finiront par l'emporter avec au prix d'un compromis réaliste. Mais, Giscard d'Estaing et les libéraux arrivent au pouvoir en 1974 et il faut casser LIP. Ils vont véroler tout le pays, il faut les punir, c'est ce que déclare Giscard d'Estaing. C'est la fin des Trente Glorieuses et le début du néolibéralisme en France. C'est la fin du capitalisme d'entreprise. Après LIP, c'est le capitalisme financier qui arrive, des millions de chômeurs dont vous êtes peut-être, et des précaires dont vous êtes peut-être, en feront les frais. Alors, on part pour Besançon avec Antoine Chao pour évoquer avec quelques protagonistes d'hier et ceux qui luttent toujours aujourd'hui. Sur cette lutte-là, bien sûr, c'est dépassé, mais sur d'autres luttes. On va passer donc cette heure, LIP, hurrah ! Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
C'est quand même amusant que c'est au moment où les employés de l'agroalimentaire et de l'agriculture qui se font manipuler par leurs patrons demandent des subventions à l'Europe pour contester le poulet brésilien. Et dans le même temps, ben, grâce à leur victoire au foot, il y a nos petits coqs bleus là, qui vont aller tout frais payés au Brésil. Voilà, allez. Les bonnets rouges, viva, portez-vous bien.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Quoi, on est le 21 novembre ? Oh, on me susurre dans l'oreillette que ce serait l'anniversaire de votre humble attaché de production. Le 21 novembre, premier jour de la révolte des Canuts, c'était en 1831. Joyeux anniversaire, Jonathan. Bonne journée à tous. Élise.
Enfant de tout pays, sauf de Cisjordanie. 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 Voilà, c'est une chanson de Enrico Lachias. Salut.
Troisième top 13h, LIP, c'est l'heure.
Je sais qu'en France, des millions de travailleurs voudraient être à votre place, voudraient être ici, chez LIP, pour nous soutenir. Et on va bien voir qui est-ce qui va triompher, si c'est la justice ou si c'est l'injustice. Nous sommes la justice, la logique.
Je me souviens qu'à un moment donné, certains politiques disaient « Lorsqu'il y aura 1 million de chômeurs en France, ça sera la révolution. » Et depuis plus de 30 ans, on est toujours au-dessus de 2 millions. Aujourd'hui, il y en a plus de 3 millions.
Bon, alors, il y a un bruit qui avait couru, que Piaget a été arrêté. Il y a des copains qui rentrent et qui disent non. Ils le suivent, mais tout va très bien.
Il fallait convaincre l'ensemble des salariés que c'était possible de se battre et de gagner.
Piaget arrive, vous voyez, paraît-il. C'est donc que la police n'a pas osé. Oui, le voilà.
C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao, c'est la basse que j'y suis. Hip, 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 hurrah!
Flight number 2, arriving from...
Alors ici, c'est la rue Battant, à Besançon.
Ici, c'est une des plus vieilles rues de la ville. La rue où est né Proudhon.
Ah, lequel, les deux?
Eh bien, Pierre-Joseph, l'anarchiste. Alors,
il y a des affiches alors qui sont placardées là. Lib 40 ans après, leur lutte et les nôtres.
Oui, eh bien c'est voilà, le titre qu'on a trouvé pour célébrer à la fois les 40 ans de Lib, l'anniversaire des 40 ans, 73-2013. Et puis aussi signifier qu'on ne voulait pas faire dans la commémoration, mais plutôt dans qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, de quoi on est héritier, et dans nos luttes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de Lib, et surtout qu'est-ce qu'on pourrait aussi aller chercher dans ce qu'ils ont inventé, dans ce qu'ils ont créé, pour alimenter nos luttes d'aujourd'hui, peut-être les régénérer un peu, les réactiver, voilà. C'était ça l'idée. Et l'affiche, elle est inspirée d'une photo de la grande manif de Lib en 73 à Besançon, où il y avait 100 000 manifestants.
On voit un point levé qui tient une montre, hein, une montre Lib.
Oui, oui, oui.
Un bracelet.
Ouais, voilà, ouais. C'est la montre, bien sûr, c'est l'emblème de la lutte des Lib, hein, le trésor de guerre, les 60 000 montres vendues pour le compte des salariés. Et puis.
En deuxième plan, voilà, c'est la manif. Hein.
Oui, c'est vraiment le grand, grand, grand souvenir qu'ont tous les gens qui y ont participé, c'est que cette manif était absolument exceptionnelle, incroyable, parce que c'est une manif nationale et même internationale, qui dépassait la population de la ville.
C'est organisé par Solidaire et oui. Contre le chômage.
Ouais, Agir ensemble contre le chômage, ouais. Oui. Voilà, dont Charles Piaget est un des fondateurs aussi ici, hein, à Besançon. Salle Battant, à partir de 14h.
Oui, l'ensemble de la classe ouvrière vous est redevable, camarades de chez Lib. Vous avez montré qu'à l'heure où l'organisation capitaliste du travail éclate, une autre organisation du travail est possible. Il est possible à une collectivité consciente, mobilisée, de vivre une démocratie intense où toutes les phases de l'action sont discutées, décidées et contrôlées collectivement.
Vous avez su démontrer une nouvelle fois que si les patrons n'ont jamais pu et ne pourront jamais se passer des travailleurs, les travailleurs, eux, peuvent parfaitement se passer des patrons.
Non au licenciement, non au licenciement, non au licenciement, non au licenciement.
Et mon maire, c'était le premier qui vient de parler. Georges Segui, c'est le second. L'un, c'était la CFDT, et mon maire, Georges Segui, c'était la CGT. Je pense que ces noms disent de moins en moins de choses à notre mémoire collective. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes aussi avec ces, comment les qualifier, des perdants magnifiques, on va les appeler comme ça. Et on va parler d'une défaite fertile. Parce que ce qui s'est passé à Lib cet été 73 et la suite devrait être étudié dans nos écoles si on voulait vraiment enseigner l'histoire de France à la jeunesse. Et vous voyez, j'hésite de dire histoire sociale, parce que ce qui s'est passé là dépasse strictement le champ social de l'histoire. C'est un moment historique, c'est une fracture, c'est un tournant. Ce que vient de dire Georges Segui, que les les patrons ont besoin des ouvriers, les ouvriers peuvent se passer des patrons. Aujourd'hui, on peut plus le dire. Les temps ont changé. À l'époque, on vient de l'entendre aussi, quand on était à 300 000 chômeurs, c'était énorme, c'était catastrophique. Et l'on disait partout que lorsqu'on arriverait à 1 million, ce serait la révolution dans le pays. On est aujourd'hui aux quantités que vous savez, sans parler des précaires et sans parler de cet horizon absolument bouché. Or, à l'époque, il y avait un espoir pas seulement à la Sorbonne, à l'Odéon et parmi la petite bourgeoisie intellectuelle de l'époque. Mais on va le voir, à l'IP, c'était les vrais gens de la vraie vie, les vrais salariés, les vrais ouvriers, les vrais cadres aussi de la vraie vie, d'une vraie ville, d'une vraie région. On vient tout de suite de parler de Proudhon, parce que cette région, ben, elle a son histoire, comme toutes les autres régions. Et là, dans l'histoire de l'IP, eh ben, il y a l'histoire de l'horlogerie, l'histoire ancienne, une histoire très ancienne. Et puis, il y a l'histoire aussi du christianisme. Et oui, le christianisme est très présent aussi dans cette histoire et dans cette lutte, avec une interprétation, évidemment, qui n'est pas celle de certains autres, qui est celle, par exemple, de Jean Ragenès, dont on a parlé récemment et qui est mort au Brésil, lui qui luttait auprès des Santerres. Bref, je dis, c'est une histoire fertile, c'est une histoire à connaître et à reconnaître et à vivre et à revivre, tant elle est fertile pour aujourd'hui. Et tant on va retrouver Piaget, bien évidemment, tant les ruses, les luttes, les connaissances profondes de ce qu'est une société, des liens, des fatigues, de tout ce qu'il y a de profond dans l'homme, dans ses rapports à l'autre, dans ses rapports au travail, dans sa volonté d'exister collectivement, mais aussi individuellement. Comment tout ça s'est mis en branle et comment tout ça a ébranlé la France et bien au-delà, puisqu'on venait de partout cet été-là à l'IP, et que de l'IP venait ce que fabriquaient les LIP, c'est-à-dire ces montres. On va évoquer à nouveau comment ils ont pris les montres en otage et comment ils en ont fait un trésor de guerre et comment ils les ont vendus à travers tout le pays, jusque sur les plages l'été. Ils vendaient leurs montres, ils en tiraient des salaires, ils ont distribué leurs propres salaires. C'est ces moments héroïques, une lutte héroïque et fertile que, avec Antoine Chao, nous évoquons jusqu'à 16h dans la Basse. J'y suis, lip, 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 hurrah.
C'est l'heure.
Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omarie changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
C'est nous qu'on sera les PDG.
Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, ils changera de fourchette, les employés, on sera les rois,
il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
numéro 3, réalisé par les travailleurs de l'IP avec la collaboration du CREPAC pour la période du 3 au 5 septembre, vous propose 4 pages sonores. La quatrième rencontre d'Arc et Senan, les pressions exercées sur les travailleurs de l'IP, les femmes dans le conflit, la popularisation et les perspectives d'extension de la lutte.
Rien ne sera plus jamais comme avant.
À l'Assemblée générale du 3 septembre, veille de la quatrième rencontre d'Arc et Senan, Charles Piaget fait le point.
Pour nous, il est essentiel que véritablement le pouvoir se rende compte que s'il veut vraiment que cette entreprise vive, la développer, il n'y a pas d'autre formule que de la maintenir dans son unité. Et cela, c'est pour nous un gage, une garantie d'avenir. Si on laisse faire un démantèlement quelconque, à partir de là, nous n'aurons plus aucune garantie pour les mois et les années qui suivent.
Non, au démantèlement ! Non, au démantèlement !
C'était l'accueil réservé à M. Giraud par les travailleurs de l'IP à Arc et Senan le 4 septembre, où les syndicats ont rappelé leur déclaration commune en préalable aux négociations.
J'ai le désir de rencontrer les différentes organisations syndicales. Alors, successivement, à 17h pour la CGC, à 17h30 pour la CFDT, à 18h... vous permettez que je finisse? Oui, non, non,
non. Chez nous, ici. Oui. Monsieur Giraud, vous étiez. Autrement dit, Monsieur Giraud, vous êtes venu ici pour installer la division.
Voilà, oui.
Vous n'avez pas à imposer. Nous nous disons, nous y allons ensemble.
C'est l'heure.
Alors, Charles Piaget, c'est la même lutte qui continue, parce qu'à l'IP en 73, vous luttiez contre le démantèlement de l'usine et contre les licenciements.
Oui. Au mois de novembre, il y a 20 ans, le premier groupe byzantin se réunissait pour réfléchir comment lutter contre le chômage, aider les chômeurs et dénoncer le chômage et faire des propositions pour l'abolition du chômage. C'est une grande ambition. Et donc, AC a essayé de combler ce vide. Mais ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le système gagne, impose des restructurations, du chômage, etc., ça a commencé en 1975, où la crise, c'était la crise du système, déjà. Je me souviens qu'à un moment donné, certains politiques disaient, lorsqu'il y aura 1 million de chômeurs en France, ça sera la révolution. Et depuis plus de 30 ans, on est toujours au-dessus de 2 millions. Aujourd'hui, il y en a plus de 3 millions. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de révolution. Donc ce qui montre que le chômage de masse est incrusté, installé et durablement. Voilà.
Comment envisagez-vous l'avenir de l'emploi, autrement dit, la menace de chômage dans les prochains mois?
Ah,
Georges Pompidou.
Eh bien, je vous cache pas.
20 décembre 1973.
Qu'au travers des difficultés du moment, c'est le grand problème qui me préoccupe pour l'avenir. Il est bien évident que si le ralentissement économique s'installe partout, nous ne pourrons pas ne pas en subir les conséquences. Et que par conséquent, se poseront de véritables problèmes d'emploi. Le devoir du gouvernement, c'est d'y penser, c'est de le prévoir, et c'est de s'y préparer. C'est pourquoi je fais appel par avance à tout le monde, et j'espère qu'on voudra bien me répondre autrement que par des grèves absurdes et des défilés dérisoires.
Alors justement, votre parcours syndical, Charles Piaget.
Oui. Oh, alors là, moi, je ne voulais surtout pas être syndicaliste, ne voulais surtout pas être délégué. Je pensais faire une carrière. Moi, j'étais déjà quelqu'un d'orphelin, j'avais été recueilli par une famille, je savais qu'il fallait pas que je pouvais pas y rester éternellement dans cette famille, il fallait que je me débrouille tout seul. Famille ultra-catholique, immigré italien, etc. Il n'était plus question de loin. Hein. Bon, là, je suis... J'étais pas trop prière du matin, prière du soir, la messe, etc. Bon, très bien. Et j'ai connu des jeunes à Saint-Claude, là, dans le quartier, qui était aussi comme ça. Quand ils ont commencé à travailler, eux, ils ont connu la CO. Ils m'ont dit, tu devrais venir, tu verras, c'est absolument différent. Toi qui es un peu rebelle, c'est pas la même chose.
ACO.
ACO, ah, oui. Action catholique ouvrière. Donc j'y suis allé, et là j'ai trouvé des choses. Par contre, quand on parlait de la foi, tout ça, je les admirais, mais ça passait pas. Dans ma tête, je comprenais pas bien. Et donc, en fait, c'est les événements qui m'ont amené à comprendre ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que la lutte, ce que c'est que le syndicalisme. En fait, même aujourd'hui comme hier, hier comme aujourd'hui, l'entreprise, elle est en guerre. Elle est en guerre économique. Et dans la guerre économique qu'elle livre aux autres pour ses parts de marché, eh bien, les salariés, eux, en subissent les conséquences. Elles se retournent contre les salariés, toujours, pour les diminuer en nombre, pour leur augmenter les cadences, pour qu'ils en sortent plus à moindre coût. Moi, il m'a fallu quand même quelques années pour comprendre à quel point c'était comme ça. Et puis, quand j'ai été nommé délégué du personnel, et puis que j'ai fait le tour de l'usine, parce qu'on n'a pas le droit à l'époque, toute personne qui était en dehors de sa place pouvait être licenciée immédiatement. Hein. On avait les vestiaires, les waters, et puis sa place, c'est tout. On pouvait pas aller ailleurs. Donc, quand j'ai pris conscience aussi que dans l'atelier de mécanique où j'étais un privilégié par rapport à la fabrication, par rapport à tout le reste. Donc voilà, j'ai pris conscience et puis on s'est dit que sans les salariés qui eux-mêmes prennent en charge leurs revendications, c'était pas la peine. Et on y est arrivé. En 68, ça avait déjà changé beaucoup. Et puis il y a eu un autre conflit en 1970 où les salariés ont pris vraiment fortement en charge le conflit. Fred Lieb voulait nous virer les militants de la mécanique. Il avait compris que ça devait être dangereux. Et ça s'est terminé sans que nous, on intervienne au niveau délégué par une désobéissance généralisée. Les salariés ne donnaient plus aucun renseignement au chef sur le travail, etc. Donc, quand ils ont vu ça, ébauché ça, on virait Fred Lieb, parce que c'était vraiment le chaos. Ils ont viré Fred Lieb et ils ont mis un homme à eux. Voilà. En 1967, ébauché ça a pris 33% des actions. Bon. Et très vite, il est devenu majoritaire. Et Bochessa rentrait à Lib, pas pour prendre Lib comme elle était, mais pour en tirer le mieux de sa substance, c'est-à-dire la marque qui était connue, le réseau commercial, les chaînes de montage qui étaient les plus performantes d'Europe, et c'est tout. Le reste, ils n'en voulaient pas. Ils avaient déjà tout ça, et pour eux, ça ne présentait aucun intérêt.
Les Lib, l'imagination au pouvoir, un film de Christian Rouault, 2007.
À 15h, soutenir les travailleurs de chez Lip. Soyez solidaires. Solidaires. Solidaires.
En 73, vous refusez le démantèlement de l'entreprise et les licenciements.
On est sûr que ça va être un conflit long, très difficile. Bon, on en est sûr. Donc, il n'est pas question de faire grève tout de suite. Ce serait une grosse erreur. Il faut donc commencer à détacher notre tête du boulot et commencer à réfléchir à la lutte. Et pour ça, on avait trouvé cette petite combine de réduire les cadences. En fait, les gens n'ont pas adopté ce qu'on avait proposé. Eux, ils ont décidé de travailler comme d'habitude et d'arrêter 10 minutes, un quart d'heure par heure, 10 minutes. On avait fait donc un tract de 7 pages pour expliquer tout ce qu'on savait. Voilà. Tout ce qu'on sait sur le groupe, tout ce qu'on sait sur ses intentions, sur ses probabilités d'intention. Et à partir de là, on dessine une petite stratégie qui pouvait nous permettre de se battre et de gagner. Ce qu'on appelle la conquête de l'unité intérieure. Un, il faut refuser la fatalité. C'est pas facile, ça. Mais il fallait convaincre l'ensemble des salariés que c'était possible de se battre et de gagner. Après, ça, la deuxième grande, c'était l'ouverture. Et rappeler qu'on ne doit pas, comme en 68, où chacun restait chez soi, fermer les portes, etc. Nous, non. Chaque fois qu'il y avait un combat syndical, les salariés s'enfermaient dans leur entreprise. Ils l'occupaient, mais ils s'enfermaient dedans. Pas question d'ouvrir les portes, etc. Nous, on a dit, on va faire le contraire. Parce que c'est important que l'opinion publique, que les médias, que tout le monde sache un peu ce qui se passe. Et puis qu'ils nous voient. Et donc, on a commencé à faire cette bataille de l'extérieur. Donc, il y a des LIP qui ont réfléchi, qui ont trouvé un vieux bus de la RATP de Parisienne, et qui l'ont décoré, mis une sono, puis qui sont partis voir toutes les entreprises de la région à l'entrée ou à la sortie, avec des tracts et puis des petits discours à la sono, montrer que ce qui nous arrive, ça peut vous arriver à vous, il faut qu'on soit solidaires, etc. Donc, on a commencé à faire des manifs, à faire, voilà, à commencer à travailler sur l'extérieur.
Le but commun, c'est d'essayer de faire repartir les affaires.
Charles Piaget.
On est bien d'accord là-dessus.
Août 1973.
Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut, sabrer, si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Il est là le problème.
Et puis, ce travail sur l'extérieur, il est arrivé au moment, le 12 juin, où les administrateurs du tribunal de commerce nous ont dit, voilà, il n'y a rien, personne ne veut l'entreprise, etc. Donc, quand on a découvert le plan qu'ils avaient là dans leur serviette, les administrateurs, on s'est rendu compte qu'on avait vu juste. On les a séquestrés, c'était bien marqué. Un, il faut que les salariés n'aient plus aucune personne responsable devant eux. Donc le PDG, vous allez démissionner, et il n'y aura plus que des anonymes devant les salariés. Deux, ils vont donc se mettre en colère, ils vont donc se dire, mais on ne sait rien, il faut qu'on occupe l'usine. Donc le tribunal, puisqu'on est passé par le tribunal exprès, le tribunal de commerce, il n'a pas d'autre choix que de couper les salaires. Et à partir de là, c'était écrit en toutes lettres, au bout de 2 mois et demi, c'est les statistiques, personne n'a réussi à tenir plus que 2 mois et demi, eh bien vous pourrez faire votre restructuration complète. Coût envisagé, 2 millions de francs. C'était une entreprise conseil qui leur a... ébauché ça, avait dit, ouais, il paraît qu'il y a des syndicats forts là-dedans. D'ailleurs, Fred Lip a échoué quand il a voulu faire une restructuration. Comment on fait? Eh bien voilà, on va vous expliquer. Faire le vide devant les travailleurs, enfin c'était marqué. Et à partir de là, vous êtes tranquille, ça va pas tenir le coup. Ils sont venus les délivrer, ils ont fait l'assaut là-dedans, ils ont réussi à les délivrer. Et tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on vient de comprendre que la police peut venir à tout moment et occuper l'usine. Et on l'est perdu à ce moment-là, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y en a un qui a trouvé l'idée, ben, on avait des otages humains, on va prendre de l'otage matériel. Ouais. Voilà, t'as bien discuté. Et puis, on a enlevé 25 000 montres dans la nuit. 25 000, c'est un sacré paquet. 3-4 jours après, on en a encore enlevé une vingtaine de mille. Donc voilà, donc on a, sans le savoir, on a répondu à ce problème-là. Et donc, c'est fou. Hein. On a vendu on a fait vraiment des ventes de montres incroyables.
Il reste 2 minutes. Avant que les premiers clients puissent rentrer, il faut que les clients puissent rentrer normalement. On leur paye une haie d'honneur, si vous voulez.
Voilà. Alors j'ai acheté la montre, une montre électronique. Là. Ça m'évitera de la remonter. Ici, comme ça, je suis en règle, je suis tranquille. Maintenant, s'il faut aller en prison, on ira.
On a mis une pendule dans un mouton en tôle et on va le porter au Larzac dans une bergerie. Les budas, ils auront leur Lip à domicile. C'est la défense de notre terre. Lip, Larzac, même combat. Une nuit, j'ai vu le Charlie, il quitte l'usine à 4 heures le matin. Il va redresser la banderole arrachée par le vent. On fabrique, on vend, on se paye, c'est possible.
Ce fut possible. Nous croyions que c'était possible. Nous y avons cru, nous avons rêvé à cette époque. Et on avait raison de rêver. On a toujours raison de rêver. On a toujours raison de se révolter. Mais ceux du haut, les puissants, et pas seulement en France, mais à travers, disons, l'Occident, se disaient, ils sont ingouvernables. Il faut trouver le moyen de les mater, et le moyen a été le chômage. Et Lip a vécu ça, ceux de Lip ont vécu ça, contre cet élan, contre cette légitimité des travailleurs, contre cette envie profonde, manifestée, de prendre son destin en main et de s'approprier les moyens de production et les résultats de la production, ce qui est la légitimité la plus évidente et la plus élémentaire. Eh bien, la réponse a été après la réussite, on va l'évoquer, ça a été, il faut détruire cela, il ne faut pas que cet exemple se répande à travers le pays, parce qu'on ne pourra plus jamais les gouverner. Et il fallait mater et ruiner cette réussite que fut Lippe et qu'évoque avec nous aujourd'hui à Besançon, au micro d'Antoine Chao, Charles Piaget.
Et donc après la grande inconnue, c'était de se dire, voyons, donc, bientôt, ils vont couper les salaires. On le sait, c'est comme ça que ça se passe. Ils vont couper les salaires. Et là, on bute, parce que partout, y compris les mineurs, s'étaient rendu compte à quel point, quand on est 1000, il faut des collectes formidables pour arriver à 10% du salaire. C'est extrêmement difficile de monter au-dessus de 10%. Or, si on ne parvient pas à régler ce problème-là, eh ben, c'est la même chose que ce qu'on a dit tout au début. Au lieu d'avoir le cerveau dans la lutte, il va repartir dans la famille. Parce qu'il va y avoir plein de problèmes. Le loyer, j'y arrive plus, etc. Donc, c'est fini. Il n'y aura plus de dynamisme. Parce que le cerveau va être ailleurs. Il ne va être plus dans la lutte. Donc, il faut qu'on trouve. Et finalement, la solution s'est imposée toute seule. Elle est venue de plusieurs endroits. Elle est venue en disant, bon, ben, il faut qu'on remette en route les chaînes, et puis qu'on vende des montres, et puis qu'on se paye. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on sait qu'on est perdu. Et donc, il y avait 32 000 montres à monter. On a dit, on va déjà faire ça. Puis après, on verra s'il faut repartir depuis plus loin.
Alors là, c'est là qu'est né le slogan « C'est possible, voilà. on fabrique, on vend, on se paye ». Ça voulait dire quoi, c'est possible?
C'est possible de faire ça. Alors, c'est possible de faire ça pour arriver à résoudre le problème des salaires et continuer la lutte. C'était pas en vue d'une autogestion, d'une coopérative, c'était en vue de continuer la lutte pour obtenir une solution viable. Voilà.
Et pourtant, avec ça a été vu comme une tentative d'autogestion, de reprise ouvrière de l'outil de production.
C'est vrai. Moi, j'avais pris la comparaison en disant on est un peu comme au XVIIIe siècle, la mutinerie. Et puis, au bout d'un moment, les mutins disent « Oui, c'est bien gentil, ça, mais on est obligé d'arrêter notre mutinerie. Aucun ne sait faire fonctionner le navire. On ne sait pas se diriger. Personne ne connaît le sextant, etc. » Donc, on est obligé de remettre ces sacrés officiers en place pour pouvoir sortir de la mer et arriver au port. Et là, on a tellement eu peur. C'est incroyable. On a été obligé de faire l'appel pour se rassurer. On a dit « Est-ce que toutes les ouvrières de la chaîne sont là ?»« Oui, oui, oui. Est-ce que le mécanicien de chaîne est là ?»« Oui, il est là, le voilà. » Est-ce que le contrôle est là? Oui, oui, voilà, on est les trois, là, pour le contrôle, on est là. Bon, il a fallu se rassurer en faisant l'appel complet pour se dire, oui, finalement, on a les moyens d'y arriver. On n'osait pas faire le pas. Ça montre à quel point on est aliéné et que c'est difficile, comme tout, d'imaginer qu'on va prendre tout en charge. On a fait quand même 8-9 semaines comme ça. C'est quand même pas mal.
Alors maintenant, tranquillement, et tous ensemble, nous allons aller toucher notre paye.
Donc ces gens-là travaillaient, s'organisaient eux-mêmes. Ils avaient, d'ailleurs, c'était la première fois qu'ils changeaient de poste sur la chaîne. Il y en a qui disaient, moi je ne veux pas rester toujours sur ce poste. Donc ils repartaient sur un autre poste et on lui apprenait sur l'autre poste. Et là, il y a eu d'ailleurs toute une peur, par exemple, des organisations syndicales. La CFDT, elle avait peur. Elle dit, oui, mais tous les gauchistes arrivent là. Oui, et alors, on va pas. Nous, on a un mûrissement depuis des années, depuis 68. Il y en avait déjà un peu avant. Les groupes d'extrême gauche, on les connaît. C'est pas non plus des champions de la démocratie. On va voir avec eux. Il y aura des débats. Donc, il y a eu quelques personnes de récupérer, mais pas. Non, dans l'ensemble, on a assez bien résisté, les LIP, au grand chambardement des idées qui arrivaient de partout et où il y avait. C'était un espèce de forum permanent au restaurant. Il y a quand même eu des délégations ou des individuels de 94 pays. La commission accueil faisait bien son boulot. 94 pays du monde, de l'Océanie en passant par l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc., sont venus à LIP. Les Japonais, des délégations syndicales du Japon, des cheminots japonais sont venus, tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils trouvaient là. Ils voulaient trouver des choses, des réponses à leurs propres problèmes qu'on n'avait pas toujours, loin de là. Mais c'était devenu quand même un espèce de rendez-vous important. Après, ils ont interrompu l'affaire avec les CRS, avec les gardes mobiles.
On a déjà compté 37
37.
De quoi ?
37 ce matin, mais ils sont au moins 2000.
Et puis pour la manifestation, on m'a dit 60.
Hier, on m'a dit, demain, on m'a dit qu'il serait au moins 5000 sur Besançon.
Oh, bah c'est sûr !
C'est pas compliqué. De toute façon, s'il en faut 20 000, ils en amèneront 20 000, hein, pour pas se leurrer.
Mais pas des chambres à louer, on peut peut-être gagner des sous. On toujours par le côté pratique.
Après, il faudrait désinfecter, c'est pas la peine. Mais de toute façon, ils perdent rien pour attendre. Oh, on se ramasse une de ces volets cette nuit.
Bah, cette nuit, ça va
pas. Les premiers. Honteux, doivent ça payer ça.
Quatrième page sonore. Face à l'obstination des pouvoirs publics et pour obtenir des négociations sérieuses, les travailleurs de l'IP ont décidé de renforcer la pression, l'information et la popularisation.
Il a une voix pas harmonieuse.
Alors vous êtes le stand d'accueil de Jean Zay. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent vous voir là ?
Eh bien, les personnes qui viennent nous voir, je leur propose des cartes postales souvenirs. Elles ont tout un petit mot des ouvriers libres derrière.
Non, licenciement. Non, démantèlement de notre usine.
Alors les personnes, voilà, la photo de notre nouvelle usine depuis le 14 août. Ensuite, il y a les cartes pour le Premier ministre que nous faisons timbrer, signer et envoyer en masse. On donne à chaque hacheur un soutien aux travailleurs qui collent derrière sa voiture.
Et vous avez également un livre.
On a un livre
qui retrace
toute la vie des ouvrières qui sont passées dans l'usine jusqu'à l'arrivée des Américains. C'est ça que vous vouliez. Alors donnez-moi ça, je vais vous expliquer.
Alors les Américains, c'est les forces de l'ordre.
Voilà, voilà. Et c'est des gens qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas avec nous. Alors c'est les Américains.
Donc au mois d'août 73, le 14 août, vous êtes délogé par le CRS, par les gardes mobiles qui viennent, c'est assez violent même.
Oui, tous les soirs, il y avait des bagarres devant l'usine, parce qu'il y a des gens qui venaient de loin pour crier après contre les gardes mobiles et puis leur envoyer des pierres. Alors, donc c'était un piège, moi aussi c'était un piège. Donc il a fallu qu'on dise, qu'on n'a pas voulu dénoncer. Il y a eu au moins 30 personnes jugées et condamnées à 4 mois de prison, etc. Donc il a fallu... Il y a une commission qui s'est mise en place, aider les familles, etc. Il y avait donc des prisonniers. Et on a essayé d'intervenir en disant, là, on est dans un piège. Ça peut durer longtemps. Le pouvoir, il tiendra le coup. Donc, il faut arrêter, puis reprendre le combat sur l'emploi, sur une solution viable, etc. Les CRS sont restés 6 mois. 6 mois dans l'usine. On n'avait jamais vu ça. 6 mois. On avait fait 7 payes, et puis les CRS sont restés 6 mois. Donc, on ne s'est pas désunis. On a reconstruit dans Besançon. On a retrouvé un lieu pour l'Assemblée Générale. La commission resto est montée au Fort Brogy pour monter un restaurant. On monte un restaurant. C'était vachement bien. Et puis, on a eu un gymnase, le gymnase Jean Zay, pour faire les commissions. Puis après, on a eu la maison pour tous. Donc, on s'est tous reconstitués. Certes, on avait quand même été affaiblis. Parce que l'usine, c'est quand même mieux. Mais quand même, on n'était pas perdu. On pouvait continuer de fabriquer, de vendre et d'aller faire les meetings, etc. Il y a eu des débrayages immédiats à plein d'endroits.
Alors, la lutte a duré 9 mois. Vous avez obtenu satisfaction à vos deux plus grandes revendications, étaient pas de licenciement, donc tout le monde réembauché, et puis pas de démantèlement, avec l'arrivée d'un patron, on va dire, providentiel, Claude Neuschwander, c'est ça ?
Exact. Ouais.
Donc, qui a, à travers les accords de Dole, qui a réussi à reprendre l'entreprise et à relancer en plusieurs étapes la production et réembaucher petit à petit tout le monde. Mais vous étiez satisfait quand même de ce résultat, après 9 mois de lutte, d'avoir un patron, aussi social soit-il, ou aussi éclairé soit-il, ça vous satisfaisait ? Après, quand même, ces 9 mois, ou ces quelques mois en tout cas, de liberté totale dans l'usine et d'imagination au pouvoir, comme c'est vous
vrai.
Le disiez.
C'est vrai. Mais on était obligés, on y a longuement réfléchi à ça. Mais c'était pas possible d'avoir une coopérative de cette taille-là, dans un milieu hostile. On a vu même Neuschwander, où c'était pas encore réglé au niveau du patronat. Lui, avec des grands patrons derrière lui, il a eu des problèmes quasiment insurmontables à régler. Donc ça montre un peu ce qu'est le système. Donc une coopérative n'aurait pas pu. Donc je crois que non, c'était vraiment pas possible. Il faudrait que le système change beaucoup plus profondément pour pouvoir faire ça. Et où ce qu'on ne savait pas, qu'on a appris plus tard, c'est qu'il y avait déjà des choses qui bougeaient dans l'économie, les libéraux. Le gouvernement était déjà divisé en deux blocs. le bloc des gaullistes, qui avait encore une espèce d'idée de la France, héritait de la résistance, du CNR, etc. Voilà. Et les libéraux, qui eux voyaient les choses complètement autrement, avec autour de Giscard d'Estaing et d'autres, et qui eux disaient non, il faut qu'on remette en route une économie beaucoup plus privée, beaucoup plus éloignée de l'État. Il faut qu'on reprenne de la distance avec les salariés, c'est plus possible de continuer comme ça, enfin, etc. Donc, eux, ils voulaient au contraire qu'on perde, et puis qu'on devienne chômeur. Hein. Voilà. Et à partir de là, donc, ils ont abandonné l'ULIP.
Que vous ne fassiez pas exemple.
D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont essayé, au fil des années, de dire à tout le monde, c'est plus possible, il n'y a que ça. Vous n'avez pas à espérer autre chose que ce qui existe aujourd'hui, le libéralisme économique. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on combatte.
Je suis moi-même en état de blocage.
Jean Charbonnel.
Et même effectivement de contradiction.
Ancien ministre du Développement industriel.
Mon collègue Giscard d'Estaing me dit, l'impression que vous voulez essayer de sauver ces types, il n'y a rien à faire, laissez-les, sinon ils vont véroler tout le corps social et économique. Il faut les punir, le mot a été employé. Il faut les punir, qu'ils soient chômeurs et qu'ils le restent.
Voilà cette petite seconde dans le film de Jean Rouault, L'IP, imagination au pouvoir, prononcée par Jean Charbonnel, que vous venez d'entendre, est la clé de cette histoire. C'est très court, mais pourtant c'est la clé de cette histoire. Voilà ce que vous voulez, les libéraux arrivaient au pouvoir en 1974. C'était vraiment en finir avec ces luttes, avec cette classe ouvrière, et la mettre au chômage. Et cette politique est née à ce moment-là, et a prospéré, entre guillemets, comme vous savez. L'IP, un moment clé de notre histoire.
Radio L'IP numéro 3.
Mais à L'IP.
Réalisé par les travailleurs de L'IP.
C'est sûr, rien ne sera plus jamais comme avant.
Les travailleurs de L'IP pourraient lancer un appel pour rappeler à toutes les professions, à toutes les organisations syndicales, de prendre des initiatives, et des initiatives qui parfois peuvent être nouvelles, s'inspirer un peu donc des nouveautés qui ont été installées dans le conflit libre, des nouveautés qui permettraient de montrer à quel point la solidarité s'amplifie. Donc, on appellerait toutes les organisations syndicales d'imaginer, d'innover, d'apporter le soutien sous toutes ses formes. Il y a également le fait qu'une des meilleures manières de nous aider, c'est que toutes les sections syndicales, tous les travailleurs prennent en main leurs problèmes, car il y en a, et il y en a de nombreux, y compris sur les problèmes de l'emploi actuellement, qu'ils prennent leurs problèmes et les mettent en avant, les fassent aboutir tous ensemble, dans tout leur secteur, fassent aboutir leurs problèmes.
Rien ne sera plus jamais comme avant.
Jusqu'à L'IP, c'est un capitalisme qui est un capitalisme certes dur, les conflits sociaux sont considérables, c'est pas la peine d'y revenir.
Claude Neuschwander.
Mais c'est un capitalisme dans lequel l'entreprise est au cœur de l'économie.
Ancien patron de L'IP.
Après L'IP. L'entreprise nouveau temps, qui est celui que nous vivons aujourd'hui, c'est un capitalisme dans lequel la finance à remplacer l'entreprise. L'intérêt de l'argent est devenu le moteur. Et on joue au monopoly avec les entreprises. Alors on broie les hommes. Alors on broie les territoires. C'est cela qui a commencé avec L'IP.
Ainsi parle Neuschwander, qui a été le patron de L'IP au terme de cette lutte pendant un peu plus de 2 ans, qui était un type étrange, qui était à la fois le patron, l'ex-patron de Publicis, et en même temps un type qui était inscrit au PSU, le Parti Socialiste Unifié à l'époque, qui était un parti de gauche et un parti radicalement à gauche, et qui, dans le film toujours de Christian Rouault, met les choses au point et pour lui donne cette cette interprétation de cette lutte et de son issue. Merci à tous. Lip, lip, lipoura, c'était un reportage Antoine Chao. Merci à Charles Piaget, Noël Leder, Dominique Dubosc, Laurent Kondratuk, Thierry Lefebvre et notre ami Annick Coupé. L'affaire Lip, c'est un film de Dominique Dubosc que nous vous conseillons. Et puis, bien sûr, on l'a évoqué à plusieurs reprises, l'imagination au pouvoir, les Lip, l'imagination au pouvoir, le documentaire de Christian Roux, réalisé en 2007. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, et vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de l'émission où vous pouvez, chers amis, vous exprimer. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet et Ludovic Asselot. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duo, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, selon Élise qui nous en a informé au début de cette heure. Stéphanie Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On se retrouve, pas demain, mais lundi à 15h pour là-bas, si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, au niveau des... Tant que j'ai un micro, je parle dedans, moi. Il y a des...
on va encore dire que les hommes monopolisent la parole, alors que c'est essentiellement des femmes qui sont là.
C'est
mais
clair,
bon.
Oui. Je suis un petit peu femme aussi, hein, c'est clair. On a tous un petit peu de... Voilà. De femme en soi. Les grandes centrales syndicales, sur ce coup-là, ils n'ont pas assuré. Hein. Il n'y a que les banderoles de la CFTC. À juste titre, CGT, FO, etc. Il y a eu des gros désaccords la semaine dernière là-dessus au niveau du mouvement.
Pourquoi ?
Ils ne nous suivent pas.
Les syndicats disent vous n'avez rien à revendiquer.
Les syndicats, ils parlent qu'en termes de revalorisation salariale. Ils ne voient pas l'intérêt de quitter le titre 4 de la fonction publique hospitalière. Nous, on est assez nombreux là aujourd'hui pour attester que dans la profession, les sages-femmes veulent être reconnues en tant que médicales. Et qu'elles, c'est tout, elles sont prêtes à laisser le statut 4, le titre 4 de la fonction publique hospitalière. C'est bon.
Bonjour à tous et bienvenue place d'Enfer Rochereau où les sages-femmes et les sages-hommes ne sont pas contents. Alors expliquez-moi juste, parce que je voudrais bien comprendre la notion de premier recours.
En fait, lorsqu'une femme enceinte va appeler un secrétariat pour des rendez-vous pour sa grossesse, nous, les sages-femmes, ce qu'on demande, c'est que cette femme nous soit... mis en consultation, c'est-à-dire qu'après c'est à nous à voir s'il y a pathologie, on renvoie vers un médecin, un gynéco, obstétricien pour la prise en charge, on gère en collaboration la pathologie avec le gynéco, mais on veut que toutes les grossesses physiologiques normales soient suivies par des sages-femmes, et ça coûterait beaucoup moins cher à la sécu. Donc ce qu'on demande aussi, c'est que les femmes en bonne santé soient vues par des sages-femmes. Et les pays d'Europe où c'est les sages-femmes qui suivent les grossesses normales, ils ont des taux de morbidité qui sont meilleurs aux nôtres. Nous, on n'est pas bien classés au niveau européen.
Et après, on est 20e, nous.
Oui, donc, et pourtant, c'est dans ces pays-là... Elles sont
comme dans le foot, quoi.
Dans ces pays-là, elles sont suivies par des sages-femmes, quoi. Alors, je ne veux pas dire que la sage-femme est meilleure que le gynéco, mais je pense que pour tout ce qui est grossesse normale, on va prendre plus le temps, nous, en consultation. On va peut-être moins faire d'examens, ce qui induit moins de pathologies, enfin, moins être plus dans la physiologie. Et puis, voilà, quoi. C'est ça, en gros. Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais on parlait tout à l'heure du chômage et de la précarité. Et je pense que dans notre profession, on était à l'abri. Moi, j'ai été diplômée il y a 10 ans, c'était royal, je pouvais travailler où je voulais. Maintenant, les filles qui sortent des écoles, il y en a pas mal au chômage. Les promos qui sortent, là, elles sont 50% au chômage, les filles.
Ou alors c'est des CDD d'un mois ou sur une semaine ou juste des vacations. Il n'y a jamais rien de vraiment fixe. C'est très rare, quoi. Sur notre promo de 35, il n'y en a que deux qui ont des CDI.
Et vous êtes au chômage ?
Alors moi, je cours les maternités. Là, j'étais un mois à Boulogne, un mois à la clinique à Amiens, deux mois à Ville. Et là, je pars à Senlis, mais je ne sais pas combien de temps.
Ah oui.
Donc c'est vraiment instable comme situation.
Et votre prénom ?
Alexandra.
Et ça fait combien de temps que vous avez votre diplôme ?
Depuis juin.
Et ça fait combien de temps que ça a changé ?
Ah ça fait quelques années que c'est déjà comme ça. Et ça s'accentue au fur et à mesure du temps.
Le truc, c'est qu'il y a besoin de sages-femmes. Mais il n'y a pas les budgets, il n'y a pas les postes. Et en fait, on a fermé beaucoup de petites maternités. donc pour faire des grosses structures. Et du coup, ça réduit les effectifs. Le but, c'est la rentabilité. Donc évidemment, les sages-femmes qui se retrouvent diplômées, là, n'ont pas de poste, quoi.
Vous vous rendez compte, Valérie, que vous, vous demandez une augmentation de salaire et en face de vous, vous avez une sage-femme qui veut du travail.
Oui, enfin, elle veut du travail. Je suis bien consciente. Mais,
Je suis pervers.
Non, non, mais on est d'accord. Mais le truc, c'est que Alexandra, là, elle bosse pour 1600 euros.
Même pas. Même pas 1600 euros. 1400 et quelques.
Donc voilà, après, si on est augmenté, celles qui débutent seront augmentées aussi. Donc c'est sûr que la précarité, elle sera peut-être toujours là, mais au moins, elles auront un mois, un salaire décent, quoi.
Mais quand vous avez choisi ce métier, vous n'étiez pas au courant de cette difficulté à trouver du travail ou vous pensiez que ça allait être facile?
Du tout, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de trouver quelque chose.
Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez des accouchements à domicile?
J'avoue que j'ai du mal à me positionner par rapport à ça. Moi, j'ai une ancienne collègue qui habite en Bretagne, là, qui fait des accouchements à domicile. Ça se passe très bien. Elle s'éclate dans ce qu'elle fait.
Ça vous a pas tenté?
Non, non, non.
Tout de suite, vous avez dit, moi, j'ai envie de travailler en milieu hospitalier.
Clairement, là, pour faire des accouchements à domicile, les assurances demandent aux sages-femmes 35 000 euros par an, ce qui correspond à notre salaire annuel. Bon, enfin, voilà. Enfin, notre salaire annuel.
Donc, c'est impossible, quoi.
Donc, c'est complètement impossible. L'amende est de 45 000 euros. Donc ça dissuade. Hein. Alors c'est vrai que les sages-femmes libérales qui font des accouchements à domicile militent pour ça. Elles ont fait passer des pétitions. Bon, voilà.
Pour le moment, elles ne sont pas assurées.
Et si elles veulent s'assurer, ça dissuade, hein, évidemment. Je ne vois pas comment elles vont pouvoir s'assurer, c'est pas possible.
Donc elles vont continuer à exercer sans être assurées.
Mais bon, après, moi je pense que c'est bien. Enfin, faut laisser le choix aussi aux patientes. Hein, si elles ont aussi le droit d'accoucher à domicile si elles le souhaitent. Hein. Tout en faut qu'elles soient évidemment conscientes de.
Signer une décharge, quoi.
Des risques, que ça encourt tout ça, mais voilà.
Enfin, Valérie, je vous remercie et bonne manif.
Bah, merci à vous d'être déplacée jusqu'à nous.
Ouais. C'est vous qui avez fait le plus gros du chemin, hein, vous êtes de Boulogne.
Ouais, bon. Et il y a des filles là qui viennent de Corse. Hein. Ouais. À Bastia, elles sont 100% de grévistes. Et... Bon, elles sont là, quoi, c'est beau. Bon, on espère que ça marche. Voilà, merci.
Un temps de pochon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
France Inter et le théâtre Héberto présentent Le Père. Une comédie de Florian Zeller avec Robert Hirsch, Isabelle Gélinas, Bernard Yerles, mise en scène par Ladislas Chola.
Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges autour de nous. Tu n'as pas remarqué? Ben, il y avait cet homme qui prétendait que je n'étais pas ici chez moi. Un homme avec une tête vraiment antipathique. Un peu comme ton mari, en pire.
Retrouvez Le Père, actuellement au théâtre Héberto, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, Gabriel Pereira.
On commence à en savoir plus sur Abdelhakim Dekar, le tireur présumé de Libération et de la Défense. Il est en garde à vue depuis hier soir pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Il a laissé des écrits où il évoque pêle-mêle un complot fasciste, la gestion des banlieues ou encore le capitalisme comme motivation. Son interrogatoire a débuté en milieu de journée, pas avant, car le suspect était dans un état comateux. Il avait absorbé des médicaments. Abdelhakim Dekar avait déjà été condamné en 98 à 4 ans de prison dans l'affaire Florence Ray Audry Maupin. C'est lui qui leur avait fourni un fusil à pompe. La mobilisation des agriculteurs d'Île-de-France ternie par la mort d'un pompier ce matin. L'homme a percuté un poids lourd aux abords d'un barrage filtrant dans le Val d'Oise. Les organisateurs du mouvement, la FNSEA et les jeunes agriculteurs affirment qu'ils n'ont rien à voir avec ce drame. Une enquête judiciaire a été ouverte. Les barrages ont été finalement levés à la mi-journée. Les agriculteurs protestent contre ce qu'ils appellent la surfiscalisation. La neige a été aussi à l'origine de nombreux accidents dans l'est de la France. 2 personnes ont perdu la vie, dont une jeune femme de 20 ans ce matin près de Mulhouse dans le Haut-Rhin. La situation s'améliore peu à peu. L'alerte orange à la neige et au verglas est désormais levée sur tous les départements. Attention toutefois, Météo France prévoit de nouvelles perturbations en fin d'après-midi et la nuit prochaine sur le centre-est. Et puis j'ajoute que 75 000 foyers sont encore privés d'électricité selon RDF en Rhône-Alpes et en Bourgogne. Angela Merkel a fini par céder. La chancelière allemande annonce la mise en place prochaine d'un SMIC, un salaire minimum généralisé, concession faite à ses futurs partenaires au sein du gouvernement, les sociaux-démocrates. Pas de précision pour l'instant sur le montant de ce salaire minimum, ni sur sa date d'introduction. Les grandes ONG environnementales claquent la porte de la conférence climat de Varsovie. Elle ne débouche sur rien, regrette Greenpeace, Oxfam ou encore le WWF. Pas d'avancée sur la question de l'aide financière aux pays du Sud pour faire face au changement climatique. Pas d'engagement constructif de la Chine. Bref, le directeur de Greenpeace International résume, cette conférence a été transformée en exposition pour l'industrie du charbon. Et puis un mot de rugby, J-2 avant France, Afrique du Sud en match test. L'entraîneur des Bleus a choisi de faire confiance à la même équipe alignée contre la Nouvelle-Zélande il y a 15 jours. Seul changement, il intervient à l'aile avec la titularisation de Sofiane Guitoun, très en vue samedi dernier lors de la victoire face au Tonga. 16h03 sur France Inter, place tout de suite à la musique et c'est à vous Frédéric Lodéon.
Merci beaucoup Gabriel Pereira, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons célébrer, si vous voulez bien, l'anniversaire de la naissance de Benjamin Britten. Il y a presque 100 ans, à un jour près, ce serait demain, mais comme nous ne sommes pas à l'antenne demain. Alors on va le faire aujourd'hui, donc c'est le 22 novembre 1913, jour de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, qui est née Benjamin Britten. Et il a eu une vie tout en contradiction d'ailleurs, d'abord parce que sa vie personnelle n'était pas très admissible en son temps, en fait. Il a vécu avec un compagnon, Peter Pierce, grand chanteur que je vais évoquer tout à l'heure. Et il a eu aussi une fragilité de jeunesse, très très attaché à sa maman. Et il a vécu d'ailleurs le décès de celle-ci comme un drame épouvantable. Et sa grande finesse d'esprit l'a amené à comprendre la musique très vite. Il a été un pianiste absolument exceptionnel, un altiste aussi. Il était frappé par la beauté de la mer. Il avait besoin de vivre, là je parle de l'élément bien sûr, il avait besoin de vivre au bord de la mer. Il était né d'ailleurs là-bas, dans un endroit assez brumeux, assez agité aussi. Et cet endroit l'a toujours attiré. Il est toujours revenu vers ces paysages anglais. Et ça a été une source d'inspiration très importante pour lui. Dans sa jeunesse, il était doué comme tout. Benjamin Britten écrivait de la musique sans arrêt. Quelquefois, son père d'ailleurs était fâché. Son père était un dentiste intelligent mais très strict. Sa maman jouait du piano et chantait. Dans cette ambiance-là, évidemment, et avec ses facilités musicalement, il a grandi de manière extrêmement rapide. Il s'est souvenu aussi des anciens, par exemple de Purcell, autre très grand musicien anglais, éloigné évidemment dans le temps, mais on peut entendre ses influences de l'ancienne musique, par exemple dans la sarabande sentimentale tirée de la Simple Symphony de Britten. Il l'a écrite à 21 ans. 21 ans, c'est déjà un âge évidemment où on connaît la musique parfaitement, enfin où on a pu apprendre à écrire, et il s'est inspiré de mélodies qu'il avait créées quand il avait 10, 11, 12 ans. Thank you. Benjamin Britten, une des faces de son génie, de son grand talent en tout cas, au génie, il a été discuté, Britten, simplement parce qu'il n'était pas un grand moderniste et qu'il y a eu une sorte de diktat à une époque, il fallait écrire très moderne ou sinon on n'existait pas, il a souffert de ça. Mais enfin bon, maintenant l'affaire est conclue, c'est un très très grand compositeur, le plus grand compositeur anglais né au XXe siècle, ça peut évidemment avoir une incidence sur sa redécouverte aujourd'hui, puis son anniversaire, ça c'est très important. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on l'a pris d'un peu haut, Benjamin Britten. C'est bien dommage. On a entendu là sa formidable façon de faire chanter l'orchestre, l'English Chamber Orchestra, qu'il dirigeait lui-même dans cet extrait de la Simple Symphony, Sarabande sentimentale. Mais évidemment, il n'était pas que sentimental, pas que sombre, triste, angoissé, puisque Benjamin Britten, quand il a vécu au collège, le fameux collège anglais, où il fallait subir le bizutage, il a été très frappé par la brutalité aussi bien de ses condisciples. On revient finalement à ce qu'exprime Guillaume Gallienne dans son film, où il est venu tout récemment dans cette émission, un garçon très sensible, confronté à des costauds, des jeunes de son âge, mais qui sont très, très costauds et puissants, et ça l'a effrayé beaucoup, Benjamin Britten. Et puis, par exemple, il a subi un bizutage, il a été enroulé dans une couverture, jeté dans l'eau, il en a vraiment été presque estourbi totalement, ce qui fait que ses condisciples ont arrêté de le torturer. Et oui, c'était un personnage très différent, mais il savait s'amuser aussi, il avait un esprit joueur parfois, et on retrouve d'ailleurs dans sa même Simple Symphony dont on a entendu un extrait, un passage qui s'intitule « Frolicsome finale », c'est-à-dire « finale espiègle ».